France Info.
Le micro européen poursuit sa tournée des pays européens à la veille des élections. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour Bernard Thomasson.
Pour savoir comment les électeurs se comportent, regardent l'Europe alors qu'ils vont voter ou non peut-être pour elle.
Vont-ils voter ?
Voilà, c'est une grande question. Et pour en parler autour du Portugal, nous recevons Ana Navarro-Pedro. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste portugaise en France. Les Portugais sont très intéressés par l'Europe ?
Oh là, ça commence mal.
Écoutez, les Européennes ont beaucoup, la campagne a beaucoup d'intérêt au Portugal, mais parce que nous aurons des législatives en octobre. Et donc, c'est un petit peu la pré-campagne des législatives.
Ces législatives vont dépendre des Européennes ?
Pas exactement, parce que les enjeux sont un peu différents, mais on compte les fusils.
Pourtant, l'Europe a apporté beaucoup au Portugal.
Oui, et en plus, c'est très curieux, paradoxal, parce qu'en plus, nous avons beaucoup plus conscience de cela que d'autres pays, parce que c'est à 82%, nous disons que l'Europe nous a énormément apporté.
Alors, quelles sont les listes en présence ?
On a 17 listes en présence. Mais alors, c'est très curieux, parce que pourquoi on a 17 listes ? C'est surtout à droite. La droite, parti conservateur qui s'appelle social-démocrate, mais ne vous fiez pas au nom, au Portugal, a gouverné pendant toute la période d'austérité. Et il a été très connoté avec cette période. Quand ils ont perdu les élections en 2015, on dirait qu'ils étaient l'opposition en exil, quasiment. Ils ne savaient pas devenir l'opposition. Et donc, il y a eu un vide. Il y a eu un appel d'air. Le parti plus à droite encore, qui est là depuis très longtemps, qui en fait est l'extrême droite portugaise parlementaire avec une bonne tête, qui est le CDS.
Ce sont les salazaristes ?
Cachés, si vous voulez. C'est un petit peu une sorte de représente quand même une classe sociale portugaise aisée, un peu élitiste. Et qui évidemment s'appelle centre, donc on les appelle les centristes, mais ne vous y fiez pas non plus au mot. Eh bien, eux, ils sont en train de gagner un peu de terrain, mais ils restent dans leur niche de 10%, 7, 8, 9, 10%. Et puis, à droite, il y a eu quand même l'émergence de partis qui se disent de centre-droite, mais qui sont assez populistes, des partis populistes très proches de l'extrême droite, un parti qui essaye de profiter de cet appel d'air, de l'effondrement du vieux parti conservateur, qui s'appelle Alliance maintenant, et qui est en fait une émanation de l'actuel président de la République, qui lui est de droite et qui cohabite avec un gouvernement de gauche.
De gauche.
Voilà. Après, petite liste écologiste, verte, qui lutte pour les animaux, etc. Et puis, il y a à gauche un ou deux nouveaux petits partis aussi.
Mais aujourd'hui, Ana, le secrétaire général des Nations Unies portugais,
oui.
C'est un pays qui compte dans le monde.
Le président
monde,
de l'Eurogroupe en Union Européenne et portugais.
Voilà. Donc, ça compte en Europe, ça compte dans le monde et ça ne concerne pas les Portugais, j'ai l'impression.
Il y a, par exemple, dans la presse portugaise, un débat, la voix du Portugal peut être entendue. D'abord parce qu'on a une expérience politique assez unique, avec un gouvernement socialiste au pouvoir qui a une coalition parlementaire, uniquement parlementaire, avec l'extrême gauche, qui a accepté un chemin moyen, c'est-à-dire un chemin qui n'est pas extrémiste, donc ils abdiquent certaines de leurs revendications et le PS accepte d'aller un peu plus à gauche parce que le Parti Socialiste Portugais, ce serait le centre-droite en France, n'est-ce pas ? Et cette expérience très unique a été même qualifiée en Angleterre par les travaillistes anglais de quatrième voie, donc une expérimentation à suivre. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que nous avons des choses qui sont intéressantes dans notre pauvre petit pays portugais et qui ne sont suivies nulle part ailleurs. Nous avons une politique contre les drogues au Portugal unique, elle a été qualifiée par les Nations Unies bien avant qu'elle ne soit dirigée par un Portugais, de la meilleure méthode au monde. Le Sénat américain considéré républicain et démocrate unique, c'était le meilleur système au monde. Le Bundestag en Allemagne a dit, mais c'est extraordinaire, tous les spécialistes disent, c'est fantastique, ils viennent du monde entier pour examiner ce programme, ce système qui donne des résultats probants depuis maintenant beaucoup d'années. Personne ne l'imite. Nous nous sommes tournés vers l'énergie alternative. Nous avons une belle expérience d'un pays pauvre. C'est pas les pays nordiques dont on peut faire profiter les autres. Ça reste un phénomène de foire quand la presse étrangère s'y intéresse. Donc, on sait qu'il y a des choses qui sont pas bien, mais qu'il y a des choses qui sont bien. Mais quand on le regarde, on dit, c'est le Portugal, bon, bref. Donc, on se dit, on n'a pas de possibilité d'influencer les autres.
Ana, le Portugal, c'est aussi le pays où les retraités européens s'installent. Alors, là aussi, c'est un électorat.
Je ne sais pas s'ils vont voter, on va voir, parce que c'est assez nouveau, cette possibilité de cette défiscalisation pour les retraités européens. Ce serait intéressant déjà. Je ne sais pas s'ils sont inscrits sur les listes électorales, c'est une très bonne question. La presse portugaise ne s'est pas encore penchée là-dessus. Merci, José Manuel Lamarque. et on va voir s'ils vont voter. Aussi le vote dans leur pays d'origine.
Le Portugal face à l'Europe et l'Europe face au Portugal, qui peut servir d'exemple également. Merci Ana Navarro-Pedro d'être passée par France Info. On continue notre tour d'horizon tout au long du printemps pour ces élections européennes. José Manuel Lamarque, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Bernard Thomasson.